C'est le journal de Pierre Pilet. Bonjour Pierre.
Bonjour Amélie, bonjour à toutes et à tous. Trop peu de vaccinés, des hôpitaux au bord du chaos, la Martinique reconfinée face au Covid et des soignants désabusés qui tentent de multiplier les injections. Le Zouk et le groupe Kassav, orphelin, Jacob Desvarieux, emporté par le Covid, l'artiste 65 ans décédé au CHU de Guadeloupe. Dans ce journal également, un drapeau noir dans le sens des départs, week-end de chasse et croisée sur les routes, plus d'un million de voyageurs attendus dans les gares. Ils habitent dans des conteneurs sans fenêtres, loués des centaines d'euros par mois par un bailleur social. Nous serons à Marseille dans cette édition. Et puis direction Tokyo en fin de journal, le bronze en triathlon, l'argent en planche à voile, plusieurs autres breloques qui vont suivre. On retrouve nos envoyés spéciaux.
Hôpitaux français, il y a urgence, les effectifs manquent, en repos bien mérité après des mois de pandémie, mais les malades continuent d'affluer, des services doivent même en fermer. On en parle dans le grand entretien avec le docteur Lionel Lameau et Pierre Schwab-Tellier, infirmier du collectif Interurgence. Ce sera dans 20 minutes.
France Inter. Et avant de développer ces titres, le dispositif alerte enlèvement à nouveau activé.
Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice.
Une alerte enlèvement a été déclenchée pour retrouver Dewi, un garçon de 8 ans de type européen, atteint de surdité, mesurant 1m35, cheveux blonds mi-longs, vêtu d'un jean et d'un manteau bleu marine. Il a été enlevé hier à Lannion, dans les Côtes d'Armor, vers 11h15, par son père, qui ne peut le voir seul. Le père est âgé de 38 ans, il mesure environ 1m65, 1m70, cheveux longs bruns. Il était vêtu au moment des faits d'un pantalon beige gris, de baskets beige grises et d'un bonnet. Il est susceptible de circuler à pied avec l'enfant. Il est demandé d'appeler le 197 en cas d'information concernant cet enlèvement. Des hôpitaux saturés et seulement 16% d'habitants complètement vaccinés. Situation dramatique en Martinique. Nouvelles restrictions, nouveau confinement depuis hier. La quatrième vague de Covid submerge le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France depuis une dizaine de jours. Deux patients décèdent en moyenne chaque jour. 140 lits saturés. L'armée qui arrive en renfort. Dans les centres de vaccination de Lille, les soignants peinent à convaincre. Les piqûres sont distillées au compte-gouttes. Reportage de l'envoyé spécial de France Inter. Thibault Lefèvre.
Au pic de la troisième vague, le centre de vaccination du CHU a accueilli jusqu'à 230 personnes par jour. En ce moment, ils ne sont qu'une soixantaine.
Je pique de quel côté, monsieur ?
Gauche.
Faites monter la manche.
Jordan a 28 ans, il est restaurateur et il est venu malgré les pressions de son entourage professionnel.
C'est les informations en fait qu'ils lisent qui ne sont pas forcément bonnes à 5G. Qu'on nous insère la puce 5G pour qu'on puisse nous contrôler, etc. Il faut commencer à vivre normalement, enfin voilà, moi c'est le risque que je vais pas prendre. Et je voudrais juste, serrer mon grand-père dans les bras. Je fais pour lui.
Sur la vingtaine d'employés du restaurant de Jordan, seulement 5 envisagent de se faire vacciner. Tous les autres refusent ou attendent. Une attitude que ne supporte plus Marie-Paul, l'infirmière qui vient de piquer le jeune homme.
C'est regrettable. Aujourd'hui, j'ai vu 3 personnes venir parce que les parents sont en réanimation. Atteints du Covid et les parents sont en réa. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir un décès pour se faire vacciner ? On ne sait plus quoi faire. Les gens préfèrent prendre le risque de mourir que de se faire vacciner.
Et le CHU est aussi concerné, car si 90% des médecins sont protégés, seulement 20% du personnel hospitalier est aujourd'hui vacciné.
Thibault Lefèvre, qu'on retrouvera dans le journal de 9h sur France Inter.
190 km au nord de la Martinique, en Guadeloupe, on pleure, le père du Zouk emporté par la Covid.
Jacob Desvarieux, fondateur du groupe Kassav, dans le coma depuis 2 semaines, décédé d'une crise cardiaque selon ses proches, à l'âge de 65 ans. Retour sur sa carrière avec Anne Chépeau.
C'est en 1979 que Jacob Desvarieux fonde Kassav avec Pierre-Édouard Décimus et Freddy Marshall. Le début d'une aventure de plus de 40 ans et d'un succès planétaire. Pionnier du zouk qui mélange le groka guadeloupéen et des musiques des Caraïbes, le groupe enchaîne les tubes chantés en créole et vend des millions d'albums. En 2019, Jacob Desvarieux avait fêté le 40e anniversaire de Kassav devant 40 000 spectateurs à Paris, à la Défense Arena. Parallèlement à son travail avec Kassav, il menait des projets personnels, comme en 1999, l'album solo « Euphrasine's Blues ». « La disparition de Jacob Desvarieux a suscité une vive émotion aux Antilles, en métropole et en Afrique, où Kassav était très populaire. Le chanteur sénégalais Youssou N'Dour lui a rendu hommage dans un tweet. « Jacob, grâce à ton art, tu as rapproché les Antilles et l'Afrique. Dakar, où tu as vécu, te pleure. »
Et autre réaction ce matin, celle du ministre des Outre-mer. Les Français perdent aujourd'hui un artiste de talent et une voix connue de tous, tweet Sébastien Lecornu. Près de 85% des personnes admises à l'hôpital à cause de la Covid-19 sont non vaccinées. C'est un chiffre donné par l'ADRES, la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques.
Et pour le troisième samedi consécutif, ils vont dire non à la vaccination obligatoire et au pass sanitaire.
Manifestation dans 150 villes, rassemblement avec la présence de gilets jaunes. Également, certains cortèges inquiètent les forces de l'ordre, Jean-Philippe Degnaud.
114 000 manifestants il y a deux semaines, 161 000 samedi dernier. Les sources policières prévoient une mobilisation au moins égale aujourd'hui dans les 150 villes où des appels ont été lancés, avec des inquiétudes particulières pour les manifestations de Lyon, théâtre de heurts la semaine dernière près de la place Bellecour, et Toulouse, où tout rassemblement revendicatif a été interdit. Des renforts de police sont également mobilisés à Dijon, Montpellier, Nantes, Valence ou encore Grenoble. À Paris, il y aura 3000 policiers et gendarmes pour encadrer 4 cortèges, dont celui emmené par Florian Philippot de Montparnasse au ministère de la Santé, un petit parcours que le leader des Patriotes qualifie déjà de défilé historique. Et une manifestation anti-pass sanitaire plus longue qui traversera la rive droite de Villiers à Bastille. Autre source d'inquiétude pour la police, les appels lancés sur les réseaux sociaux pour marcher vers les Champs-Élysées où un cortège sauvage s'était déjà formé la semaine dernière et s'était dispersé après l'intervention des forces de l'ordre.
Le décryptage signé Jean-Philippe Degnaud. Juilletiste et haoussien côte à côte sur les routes ce week-end, c'est le chassé-croisé, journée noire dans le sens des départs aujourd'hui, selon Bison Futé. Concernant les retours, c'est rouge dans le quart sud-est, orange pour le reste du territoire. Du côté de la SNCF, plus d'un million de voyageurs attendus d'ici demain soir.
Il faut relancer de façon très forte la construction de logements, notamment sociaux, à Marseille. La déclaration est signée du préfet de la région PACA, Christophe Mirmand.
Le maire de la ville, lui, réclame des états généraux sur l'habitat indigne au Premier ministre. Plus de 40 000 demandes de logements sociaux en attente dans la cité fossée, selon Benoît Payan. Parmi les habitants les plus précaires, ceux du 3e arrondissement, logés dans 70 conteneurs, loués par un bailleur social, dans l'attente de travaux de réhabilitation. Reportage Mathilde Vinceneuve.
Les conteneurs sont les mêmes que ceux que l'on voit habituellement sur le port, sauf que là, il s'agit de logements empilés sur deux niveaux au milieu d'une cour. Ce monsieur nous ouvre son box, 11 mètres carrés.
Ça fait un mois et demi que je suis là.
Vous n'avez pas de fenêtre ?
Je n'ai pas de fenêtre. Je suis retraité. Mais la paye est faible.
À côté, un autre habitant s'éponge le front. Il est ici depuis un an. Il se plaint de la chaleur malgré la présence d'un petit climatiseur. Il y a aussi les rats.
Ah, les rats, c'est partout là. Sur les conteneurs, il y a plein de rats.
Plein de rats.
Dans l'un des conteneurs voisins, un autre retraité en colère.
Je vis en prison ici, c'est une prison.
Quel âge vous avez, monsieur ?
84 et demi.
Vous payez ?
Bien sûr, on paye, oui. 390.
Presque 400 euros, c'est le loyer versé au bailleur Adoma, qui rappelle que ces logements sont temporaires en attendant la fin des travaux sur une résidence sociale non loin d'ici.
La tension est telle que toutes nos résidences sont pleines.
Samir Dina, directeur territorial chez Adoma.
Alors on a opté pour cette solution, c'est un public qui est vieillissant, qui est en situation de précarité, et nous n'avons pas voulu l'éloigner du lieu où il habitait d'habitude.
Les travaux devraient se terminer en mars 2022. Marseille, Mathilde Vinceneuve, France Inter.
Et puis, mission réussie pour Ariane 5 la nuit dernière à 23h. La fusée européenne a décollé de Kourou en Guyane avec deux satellites de télécommunication, dont un, et c'est une première mondiale, que l'on peut reprogrammer en orbite, c'est-à-dire reconfigurer sa puissance, son spectre ou encore sa fréquence.
Et à 8h10, on passe au sport.
Les Jeux Olympiques de Tokyo. Allez, on va vous faire patienter un petit peu pour vous détailler les dernières médailles françaises. Il y en a plusieurs même. Mais avant ça, l'histoire du jour dans ces JO, c'est celle d'une grande dame de l'athlétisme, Shelly-Ann Fraser-Pryce, alias Mommy Rocket. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour.
Vous nous présentez cette athlète jamaïcaine qui pourrait être cet après-midi la première femme à devenir championne olympique du 100 mètres.
Oui, triple championne olympique même, puisqu'elle a déjà été sacrée à Pékin en 2008, puis à Londres en 2012, médaillée de bronze à Rio en 2016 sur le 100 mètres. Donc l'épreuve reine, comme on dit, de l'athlétisme, la jamaïcaine au palmarès hors norme, pourrait rejoindre dans l'histoire Usain Bolt, son compatriote, le seul à avoir déjà décroché 3 heures de suite sur la discipline. Un palmarès qui lui vaut à Scheller Price le surnom de Pocket Rocket, fusée de poche, car petite par la taille, mais rapide comme une fusée, mais ce qui fait vraiment de Shelly-Ann Fraser-Pryce une icône qui dépasse largement le cadre du sport, ce sont ses engagements en dehors de la piste. Dans son pays, elle travaille ardemment depuis plusieurs années via sa fondation au développement de l'école et du sport auprès des enfants défavorisés, elle qui a débuté l'athlétisme pieds nus, faute de moyens. Un message qui va aujourd'hui bien au-delà de la Jamaïque. La deuxième femme la plus rapide de l'histoire aime donner son âge, 34 ans, et rappeler que depuis 2017, elle est maman d'un petit garçon et que ce n'est pas pour cela que la vie d'une sportive doit s'arrêter, pas pour cela qu'elle doit mettre, dit-elle, un terme à sa carrière.
Très souvent dans ma vie, on m'a dit ce que je devais faire ou ne pas faire, ce qui était bien ou pas. Mais en fait, j'ai compris que nous étions beaucoup plus que cela, que nous étions puissantes, que nous, les femmes, nous étions fortes, vous savez.
Il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, elle a posté ce message. Quand je raccrocherai les pointes, je veux savoir que j'ai inspiré d'autres femmes, d'autres jeunes filles à aller au-delà de leurs rêves et que pour personne n'oublie ce parcours dont elle est si fière et qu'elle revendique. Shelly-Ann Fraser-Pryce s'est rebaptisée non plus Pocket Rocket, mais Mommy Rocket, la maman fusée.
Merci Fanny Lechevestrier du service des sports de Radio France. La finale du 100 mètres féminin, 14h50 cet après-midi. Mais on vous le disait, il y a de nouvelles médailles françaises, dont une tombée il y a quelques minutes autour du cou de Charline Picon en planche à voile. L'argent, Jérôme Val.
Exactement, Charline Picon qui conclut vraiment de la plus belle des manières sa semaine ici au Japon en remportant il y a quelques minutes la course à la médaille. Elle a terminé à la première place devant ses principales concurrentes. Alors ça n'a pas été suffisant pour aller chercher la concurrente chinoise et l'or, mais c'est suffisant pour passer devant son adversaire britannique et donc prendre cette deuxième place. Charline Picon qui avait déjà été médaillée d'or il y a 5 ans à Rio complète donc sa collection de médailles. La Rochelaise qui a été une vraie battante sur ce plan d'eau d'Enoshima, superbe plan d'eau, mais les conditions météo pas forcément très favorables avec très peu de vent. Il a fallu batailler, mais Charline Picon a bataillé jusqu'au bout comme elle en a l'habitude. Il y a 37 ans donc, la maman d'une petite fille remporte sa deuxième médaille après l'or. C'est donc l'argent, mais ça suffira sans doute très largement à son bonheur. On va aller la voir dans quelques minutes.
Merci Jérôme Val, envoyé spécial aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et puis le bronze, très tôt ce matin, le bronze en triathlon, le relais mixte, 15 médailles désormais pour les Français.
C'était le journal de Pierre Pilet. Merci à vous. On passe aux couleurs du ciel.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
La météo avec Jean-Pierre Hameau.
En ce début de matinée, une salve orageuse intéresse déjà la région Midi-Pyrénées. Ces orages vont progressivement s'étendre au Languedoc-Roussillon pour gagner avant la mi-journée l'Auvergne et cet après-midi les régions Rhône-Alpes et PACA en épargnant la Côte d'Azur et la Corse. Dans les autres régions, vous conserverez un ciel partagé entre courtes éclaircies et passages nuageux, porteurs de quelques averses. Ces averses prendront un caractère orageux en cours d'après-midi au nord de la Seine. Prévoyez tout de même d'assez belles éclaircies cet après-midi le long des côtes de la Manche mais aussi du centre à la Bourgogne-Franche-Comté et jusque vers la région Grand Est. Les températures, toujours trop fraîches pour la saison, évolueront généralement entre 16 et 25 degrés, comptez 26 à 32 degrés en vous rapprochant de la Grande Bleue.
Merci Jean-Pierre Hameau de Météo France.